parler d'un pape et d'un très grand pape, Pie XI, malheureusement pas assez connu, qui est mort en 1939. J'avais 13 ans quand il est mort et je me souviens encore des annonces dans les journaux et de la musique que l'on jouait à la radio. Musique funèbre, musique classique, musique sérieuse, tout était changé dans la programmation de tous les postes de radio à l'époque. Un très très grand pape, un pape bibliothécaire, moi qui suis bachelier en bibliothéconomie, ça me touche, il a été bibliothécaire des plus grandes bibliothèques, soit la bibliothèque ambrosienne à Milan, que j'ai visitée l'été dernier, qui est extraordinaire, et la bibliothèque du Vatican. Mais aussi, c'était un alpiniste et un véritable alpiniste, vous verrez, je vais vous raconter ça, et c'est un pape surtout, qui a lutté contre tous les... fascisme, le nazisme, le communisme. Il a été un pape qui a travaillé de plein pied pour la liberté de l'être humain. Pie XI, décédé donc en 1939. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Pie XI, c'est vraiment un pape très attachant. Il a été baptisé le 1er juin 1857 dans un village du nom de Desio, D-I-S-I-O. Et on lui a donné le nom justement d'Ambroise, l'archevêque, l'évêque de Milan, Damien, qui, quand on pense au père Damien, n'est-ce pas, Achille Ratti. Il a été connu sous le nom de Achille Ratti. Son père, c'est un homme simple. Il était aimé de tous, en particulier de ses ouvriers. Il dirigeait une filature de laine et de soie. Mais ça ne lui appartenait pas. C'était des gens, les frères Conti, qui possédaient dans ce gros bourg de 12 000 habitants, là, Desio, possédaient cette filature. C'était situé sur la route de Lugano, vous savez, au nord de Milan, à 10 kilomètres de la ville. Et c'est une belle région, c'est la Lombardie, ça. Et en 1857, l'année de sa naissance, la Lombardie, jointe à la Vénétie, donc la région de Venise, appartenait à l'Autriche à cette époque. Hein. Donc, on pourrait dire que c'est un petit Autrichien, dans un sens, le petit Achille Ratti. Sa terre natale était sous le joug autrichien. Et elle allait, 2 ans après, heureusement, être délivrée par les armées françaises, libérée par les grandes victoires, on connaît les noms, Solferino, Magenta, n'est-ce pas? Et jusqu'à 11 ans, le jeune Achille Ratti va donc vivre dans sa petite ville. Et de sa prime jeunesse, ben, il va conserver dans son esprit puis dans son cœur des grandes impressions. Il aurait été élevé comme un petit paysan, mais ça va lui donner le goût de la vie libre. Au grand air, les courses à travers, les champs magnifiques. Hein. Et puis, il va entendre aussi l'appel des montagnes, l'appel des Alpes, tout près. Parce qu'il les voit, les masses mauves si imposantes, tout là-bas au fond de la plaine lombarde. Ça a sur lui une attirance étrange. Je vous ai dit qu'il va devenir un alpiniste. Hein. Alors quand le jour tombe, il regarde tout ça. Alors, il a connu dans la filature de son père l'existence laborieuse, si pénible, des ouvriers. Et de 5 à 10 ans, il sera l'élève préféré d'un bon vieux prêtre. On voit souvent des bons vieux prêtres qui ont une influence extraordinaire sur les jeunes. Hein? Ah, les bons vieux prêtres. Je le donne son nom, car des bons vieux prêtres, ça vaut la peine qu'on les mentionne. Don Giuseppe Volontieri, qui faisait la classe dans sa maison aux enfants du pays. Et tout de suite, il se montrera tel qu'il sera toute sa vie le premier en tout, le petit Achille Ratti. Le premier, toujours. Il fait ses humanités à Monza, puis au collège de San Carlo à Milan, de Saint-Charles, hein, Saint-Charles Borromée à Milan. Et Achille Ratti se fait tout de suite remarquer par son intelligence vive, son goût pour l'étude, et les mathématiques en particulier. Mon petit-fils est très fort en mathématiques. Et puis le 20 décembre 1879, à 22 ans, déjà, il est ordonné prêtre à Saint-Jean de Latran, l'église mère de toutes les églises à Rome. Il pourrait s'arrêter dans son effort intellectuel, pourrait être simple prêtre dans une paroisse pendant quelques années, puis reprendre ses études, mais il n'est pas comme ça. À l'université grégorienne, là, chez les jésuites, il travaille plus que jamais. Au bout de 3 ans, il obtient le titre de docteur en droit canonique. Le titre de docteur en théologie. À l'Académie Saint-Thomas, il devient docteur en philosophie. 3 doctorats. Avec 25 points sur 25, il a les notes parfaites. Le père Liberatore s'enthousiasme pour le lauréat. Aussi, il le présente à Léon XIII, qui, dans un geste inspiré, lui impose la main sur la tête, et dont Achille Ratti, comme on dit, donne, ça veut dire monsieur l'abbé, ou monsieur, si vous voulez, fut nommé professeur d'éloquence sacrée de théologie au grand séminaire de Milan. C'est accordé à ce prêtre de 25 ans une certaine autorité dans l'enseignement, hein, que justifiait d'ailleurs hautement ses diplômes. Ses supérieurs ne lui demandaient que de professer 2 sciences particulièrement difficiles, au fond. Donorati aurait pu se contenter de ce labeur intellectuel qui était plutôt difficile, mais non. L'archevêque de Milan l'avait placé au premier rang parmi le collège des professeurs. Et il a senti dès lors en lui le besoin d'obscurité et d'humilité. Il a voulu accomplir dans le secret une œuvre méritoire. C'est ainsi qu'il a obtenu d'être nommé aumônier des Dames du Cénacle, une communauté dont on parlait beaucoup à l'époque, et dont une maison d'éducation venait de s'ouvrir à Milan. Et pendant 30 ans, on le va voir exercer son ministère, passer des heures à son confessionnal, non seulement en s'occupant spirituellement des religieuses, mais aussi de leurs élèves, c'était des sœurs enseignantes. Puis il va diriger chaque année le cours de religion préparatoire à la première communion. Tous les jeudis, il fait le catéchisme de persévérance, comme on disait à l'époque. Il est ardent. Il fait des retraites, il prêche des retraites. Et pendant 5 ans, sauf durant les grandes vacances, il manque pas un seul jour à sa double tâche. Il a une puissance de travail prodigieuse. À 80 ans, Pie XI, chaque jour d'ailleurs, va rester jusqu'à minuit dans son cabinet, absorbé par son énorme labeur. Je me souviens qu'on nous racontait ça quand j'étais jeune et ça m'impressionnait donc. En 1888, un poste de bibliothécaire est libre parmi les docteurs de l'Ambrosienne, la grande et merveilleuse et extraordinaire bibliothèque de Milan, fondée par le cardinal Frédéric Borromée. Alors Donorati pose sa candidature, il est aussitôt admis. Ce sera une nouvelle phase de la vie du futur grand pape. Ça va le mener jusqu'au seuil du Vatican, puisque ça va durer 30 ans. Dans cette carrière de bibliothécaire, il entre à 32 ans, puis il va en sortir à 61 ans. Il échange alors ses 2 cours de théologie et d'éloquence sacrée au grand séminaire contre celui de langue hébraïque, car il possédait très bien la langue des Juifs. L'hébreu, la langue hébraïque. À l'Ambrosienne, dans cette bibliothèque, les docteurs, là, sous la présidence d'un préfet, devaient veiller sur les livres, les manuscrits, les mettre à la disposition d'un public très averti, entretenir de bonnes relations avec des savants étrangers de presque toutes les parties du monde, les grandes bibliothèques mondiales. Il fallait qu'ils s'appliquaient eux-mêmes aussi à des études spéciales en publiant de temps à autre des ouvrages savants. Et Donorati a donné à ses grands travaux, appelait sa bibliothèque, son Ambrosienne, la seconde patrie de tous les chercheurs de la vérité. Il semblait bien que sa voie était à jamais tracée et qu'il était appelé à n'être qu'un grand érudit. Bibliothécaire à vie, voilà ce que Dieu semble attendre de lui. Il fait des recherches, des travaux littéraires à l'Ambrosienne, des cours d'hébreu au grand séminaire. Il exerce son ministère aussi dans la communauté du Cénacle. C'est un effort dans l'étude à donner en exemple à la jeunesse catholique intellectuelle de son temps. Il a été donné aussi en exemple. Il était nécessaire aussi qu'il ait des semaines de détente. Alors, il consacrait ses 2 mois de vacances à des ascensions dans les Alpes. Il savait rien faire admis. C'est un alpiniste, un vrai. Il est devenu rapidement un spécialiste des escalades les plus périlleuses et était membre du club alpin italien. Il a rendu compte chaque année de ses ascensions en professionnel de montagne. Écoutez bien ça, en août 1889, il traverse à 32 ans les crevasses du Mont Rose sur une simple arête de neige durcie et à 4500 mètres d'altitude. Il écrit d'ailleurs, le véritable alpinisme n'est pas une affaire de casse-cou, mais une question de prudence et d'un peu de courage, de force et de constance, de sentiments de la nature et de ses beautés les plus cachées, parfois terribles. Aucun Italien n'avait encore franchi la paroi orientale du Mont Rose. Trois ans avant, deux grands alpinistes y avaient laissé leur vie. Et voilà que Don Ratti, cet homme intrépide, ce prêtre extraordinaire mais prudent, est parti à son tour à l'assaut de la terrible montagne, accompagné de son ami, un autre prêtre, Don Grasselli, et d'un guide, Joseph Gadin. Vous imaginez-vous ce futur grand pape s'élancer comme ça, la soutane relevée, oui, la soutane relevée, sac au dos, le piolet à la main. Il est là, attiré par la grandeur de cette nature, dont il célèbre lui-même la beauté, en rendant grâce à Dieu d'avoir fait ces montagnes si resplendissantes. Il écrit « Lorsque le Mont Rose nous apparut, ce fut un coup de théâtre d'une incomparable splendeur. Dans le flamboiement rosé des premiers rayons du soleil, ce colosse alpin se levait en une attitude d'invitation ou de défi. » Puis le soir, bien, après une journée exténuante, les alpinistes arrivent au refuge Marinelli, en mémoire de l'alpiniste qui est mort. C'était un silence solennel. « Un infini et très vif scintillement d'étoiles, écrit-il, sur le bleu profond du ciel. Un hérissement de masses imposantes et de cimes sublimes, des ombres géantes qui se projetaient sur l'étendue candide des neiges et des glaces. Alors, à la lueur des lanternes, la caravane repart, puis on fait de temps en temps une halte pour prendre un peu de café, puis en route, et toute la journée suivante se passe à ramper au milieu des précipices et des murailles de glace. Il fait un froid intense. Les provisions sont gelées. Pas 7 heures du soir, on touche le sommet finalement. On s'y installe pour la nuit. Pas cette altitude, au centre de ce grandiose, parmi les plus grandioses des théâtres alpins, écrit Don Ratti, le futur pape, dans cette atmosphère pure et transparente, sous ce ciel de saphir, illuminé d'un mince croissant de lune. Dans ce silence, nous étions là, absorbés. Lorsque le silence fut rompu par un roulement de tonnerre, c'était une avalanche qui se détachait et se mettait en branle au-dessous de nous. Nous suivions de l'oreille le formidable écroulement, et dès qu'il revint, le silence nous parut plus profond, plus solennel encore. Alors il fallut repartir, sous peine d'engourdissement mortel, et les trois explorateurs sont parvenus à la cime, 4638 mètres. Le lendemain matin, le 31 avril 1889, le retour fut des plus dangereux. Les trois alpinistes sont arrivés à Zermatt. Là, une caravane de sauvetage s'organisait pour aller à leur secours. On croyait perdus, les deux prêtres et leur assistant. Le prêtre Grasselli avait les doigts gelés. Achille Ratti, futur pape, accomplit maintes autres prouesses, il serait trop long de les citer. Mais je peux vous rappeler qu'il a fait une ascension du mont Cervin, 4500 mètres, celle du mont Blanc, 4800 mètres, par la voie du rocher. Puis enfin, la dernière ascension, en 1913, à partir de ce temps, il a dû abandonner. Alors nous continuons avec le merveilleux pape Pie XI, pape de mon enfance, décédé en 1939. Et je voudrais ajouter quelque chose sur le pape, ce pape alpiniste. Enfin, c'était un prêtre alpiniste. Il y a des souvenirs émouvants qui sont nombreux dans cette vie. Un jour qu'il escaladait le Grand Paradis, ça s'appelle comme ça cette montagne, le Grand Paradis, son guide, lié à lui par une corde, en passant sur un pont de neige, est venu à glisser dans une crevasse. Et d'un geste rapide, eh bien, l'abbé Ratti, ou Don Ratti, enroule la corde autour de son piolet. Vous savez, l'espèce de, comme un marteau, là. Et qui était fiché en terre. Puis il parvient seul à retirer du gouffre son compagnon, qui serait mort autrement. Une autre fois, au Grand Paradis encore, comme il en faisait l'ascension avec le jeune fils du comte Melzi de Milan, le jeune homme, un adolescent, fatigué par la dure randonnée et pris de faiblesse, doit faire marche arrière car le passage est périlleux. Et sans hésiter, le futur pape prend ce jeune homme sur ses épaules et le transporte ainsi pendant plus d'une heure, surplombant avec son fardeau de profondes crevasses. Puis côtoie les abîmes et il sauve ce jeune fils du comte Melzi. En 1907, L'abbé Ratti, Don Ratti, devient préfet, donc, de l'Ambrosienne, la grande bibliothèque dont je vous ai parlé, puis le 20 février 1912, il est appelé à Rome. Il est nommé protonotaire apostolique, chanoine de Saint-Pierre, vice-préfet de la Bibliothèque Vaticane, ça s'en vient. Il va diriger la Bibliothèque du Vatican, qui est l'une des plus grandes au monde. Il est donc vice-préfet avec droit de succession. Un avancement inattendu qui le surprend. Plutôt désagréablement, d'ailleurs. Parce qu'après tant d'années passées à Milan, à l'Ambrosienne, dans le nord de l'Italie, il avait bien cru y terminer sa carrière. D'autant plus qu'il en était le préfet, c'est-à-dire le directeur, le conservateur, si vous voulez. Et voilà qu'on le mettait à la tête de la plus célèbre des bibliothèques du monde, aux richesses incomparables, qui possédait les plus rares manuscrits, les merveilleux trésors de l'Église, dont il allait être désormais le conservateur, quoi. Alors il fait ses adieux à ses séminaristes, aux religieuses du Cénacle à Milan, puis à ses amis, les docteurs de l'Ambrosienne aussi, puis se rend à Rome. Et le 1er septembre 1914, il succède comme préfet de la Vaticane à un jésuite éminent, un savant, un paléographe illustre, le père Erle. Et Monseigneur Ratti, alors il est devenu Monseigneur, continue à mener à la Vaticane, à la Bibliothèque Vaticane, sa vie laborieuse, très ordonnée. Et la Grande Guerre se poursuit. C'est la Grande Guerre. Les Austro-Allemands sont maîtres de la Pologne. Dans les premiers jours d'avril, Benoît XV, le pape, fait appeler le préfet de la Vaticane et lui annonce qu'il a décidé de l'envoyer comme visiteur apostolique en Pologne. Oh, ça ne plaisait pas du tout à Monseigneur Ratti, c'était pas son genre. Il arrive quand même dans la capitale de la Pologne pour la fête de Dieu, et le jour même, il officie à la cathédrale, plus d'un siècle après le départ du dernier nonce, du dernier ambassadeur du Vatican. Il porte en procession l'ostensoir dans les rues de la grande ville. L'Église de Pologne, après avoir été pendant tant d'années la persécution de la part d'un tsarisme orthodoxe dur, et a été vidée. Cette église n'a presque plus d'évêques. Et Monseigneur Ratti, simple protonotaire apostolique, quoi, en fait nommer 10 évêques polonais. Puis, il entreprend l'inspection des diocèses. Il se rend compte sur place des besoins du clergé puis des fidèles. Puis dans cette Pologne qui renaît à la vie nationale, après avoir disparu de la carte de l'Europe depuis 144 ans, pas drôle, hein, ces pays qui sont... qui perdent leur indépendance, qui perdent tout. Monseigneur Ratti fait preuve d'un sens politique puis d'un esprit diplomatique tel que le Saint-Siège décide de le nommer nonce apostolique, qu'il devient ambassadeur. Et là, le préfet de la Vaticane, lui qui était préfet de la Vaticane, entre dans ce qu'on peut appeler la carrière. Il craint, lui qui est un homme de bibliothèque, qu'après ce premier coup d'essai qui lui a réussi, on l'emploie comme diplomate, puis les honneurs lui arrivent. Il ne les demande pas. Il devient nonce apostolique, donc évêque. Il est évêque en 1919, le 3 juillet. Au début de février 1921, parce que deux ans plus tard, Son Éminence, le cardinal Ferrari, archevêque de Milan, meurt. Monseigneur Ratti l'aimait beaucoup. Dans le consistoire du 13 juin 1921, c'est quand les cardinaux se réunissent pour élire quand le pape réunit des cardinaux pour nommer de nouveaux cardinaux, Benoît XV nomme le nonce apostolique en Pologne, Monseigneur Ratti, archevêque de Milan et cardinal-prêtre. Alors, quand Benoît XV impose la barrette cardinaliste là, au cardinal Ratti, ainsi qu'à deux autres nouveaux cardinaux, il réunit dans un salon les trois cardinaux, puis dit « Aujourd'hui, je vous ai donné du rouge, mais pour l'un de vous, il y aura bientôt du blanc. » C'est une parole prophétique. 7 mois après, il est devenu pape. Ça se fait très vite, comme vous voyez. Et c'est l'entrée triomphale à Milan quand il a été nommé cardinal. La jeunesse catholique se porte en foule sur son passage. Elle acclame celui qui doit devenir la pupille de ses yeux. le plus délicatement battement de son cœur. Ce sont des expressions très italiennes. Et dans l'église du Dôme, c'est-à-dire la cathédrale de Milan, qui est magnifique. J'y suis allé je ne sais combien de fois cet été, tellement c'est beau. Mais là, le cardinal Ratti, qui vient d'être nommé, célèbre la messe pontificale. Et dans son homélie, il glorifie la papauté. Rome est vraiment la capitale de l'univers, dit-il. Ce sont des paroles courageuses, parce que la papauté, à ce moment-là, est encore prisonnière dans le Vatican. Elle soulève d'ailleurs la fureur de la presse officielle d'Italie. Et le soir de cette grande fête religieuse, le nouveau cardinal prend part à un banquet. Lequel? C'est pas avec les ministres ou les sénateurs, pas du tout. C'est un banquet qui est offert à 1000 pauvres par la Fédération des jeunes catholiques de Milan. Et le lendemain, le cardinal Ratti pose la première pierre de la maison du peuple. Et il s'adresse de façon merveilleuse en disant, « Vous qui travaillez, qui souffrez, vous avez un droit particulier. Est-ce que votre Père Céleste vous ouvre les bras ?» Il veut vraiment s'occuper des pauvres et des jeunes. En 1922... Au début de l'année, l'univers est en deuil. Benoît XV vient de mourir. Deux jours après, accompagné de son secrétaire, le cardinal Ratti quitte sa ville de Milan, où il est archevêque, pour se rendre au conclave, la réunion des cardinaux pour élire un pape. Les cardinaux se réunissent le 2 février au soir, et puis là on vote. Le lendemain, à la chapelle Sixtine, après la messe qu'on appelle la messe du Saint-Esprit pour invoquer Dieu, pour guider les cardinaux, il prie. On juge de l'émoi, on peut même dire de la confusion du cardinal Ratti en voyant un si grand nombre de voix se porter sur lui. Alors qu'il y a un peu plus de 2 ans et demi, il n'était encore qu'un pauvre bibliothécaire, comme il le disait lui-même, un simple prêtre. Et le lundi 6 février, le cardinal Ratti obtient 30 voix, enfin 40. Puis finalement, le quantum est dépassé de 6 voix. Les baldaquins des cardinaux au-dessus de leur tête s'abaissent, puis il n'y en reste plus rien qu'un qui reste là, un petit baldaquin au-dessus de leur tête. Il a la tête baissée, le cardinal Ratti se recueille. On lui dit « Acceptes-tu ?» C'est le cardinal doyen qui lui demande « Acceptes-tu ?» L'élection qui te désigne au souverain pontificat. Alors tous les cardinaux se demandent, on connaît la grande humilité de l'archevêque de Milan. On a peur qu'ils disent non. Il ne faut pas que l'on puisse dire que j'ai refusé d'acquiescer sans réserve à la volonté divine. Il ne faut pas que l'on puisse dire que je me suis dérobé à un fardeau qui devait peser sur mes épaules. Il ne faut pas que l'on puisse dire que je n'ai pas apprécié à leur valeur les votes de mes collègues, aussi malgré mon indignité, dont j'ai le sentiment profond, j'accepte. Et quel nom veux-tu prendre? Alors il répond, sous le pontificat de Pie IX, j'ai été incorporé dans l'Église catholique. Et j'ai fait mes premiers pas dans cette carrière que l'on appelle la carrière ecclésiastique. Pie X m'a appelé à Rome. Pie est un nom de paix. Aussi désireux de vouer mes efforts à l'œuvre de pacification mondiale, à laquelle s'est consacré mon prédécesseur Benoît XV, je choisis donc le nom de Pie XI. Et je veux encore ajouter un mot, je proteste devant les membres du Sacré Collège que j'ai à cœur de sauvegarder, de défendre tous les droits de l'Église et toutes les prérogatives du Saint-Siège. Mais cela dit, je veux que ma première bénédiction aille comme gage de paix à laquelle l'humanité aspire, non seulement à Rome et à l'Italie, mais à toute l'Église et au monde entier, et je la donnerai du balcon extérieur de Saint-Pierre, ce qui ne s'était pas fait depuis 1870. Et on verra la suite, le courage de ce très grand pape. Vous verrez le travail admirable qu'il va faire. Aujourd'hui, il est question du pape Pie XI, un très grand pape, un homme admirable, extraordinaire. C'est pas parce qu'il est un pape qu'il n'est pas intéressant, de grâce. Hein? Alors nous sommes à la fin du siècle dernier, depuis que les troupes italiennes en 1870 sont entrées dans Rome. Il n'y a plus de point de contact dans ce siècle-ci, jusqu'au moment où Pie XI est élu. Et alors, après Pie IX, pas un souverain pontife n'apparut à ce qu'on appelle la loggia. Vous savez, ce balcon qui domine l'immense place Saint-Pierre au-dessus de l'entrée de la basilique Saint-Pierre. Et du premier coup d'œil, Pie XI déclare vouloir changer cette politique. Il ne se gêne pas. Il dit « Voici ce que je veux et voici ce que je vais faire ». Et il le fait. Et du haut du balcon Saint-Pierre, il donne sa bénédiction, lui, le nouveau pape qui vient d'être élu, à la foule et aux soldats italiens qui lui présentent les armes. 29 avril 1923, Pie XI béatifie sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le 100e anniversaire cette année de son décès, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Les paroles qu'il prononce alors sont à retenir. Il dit « Nous l'avons invoquée comme notre patronne et notre avocate, à cause de cette pluie de roses qu'elle ne cesse de verser sur les hommes, comme elle avait promis de le faire. » Puis le 17 mai 1925, ce furent les fêtes de la canonisation de cette carmélite de Lisieux. Elles se développèrent au milieu de célébrations absolument fantastiques, par la volonté même du pape. Il y a eu une journée de gloire pour l'Église, et aussi pour la France. Et le soir, la basilique et les colonnades de Saint-Pierre ont été illuminées. Un spectacle qu'elle n'avait pas vu depuis 1870. Comme sa vie laborieuse était très réglée à l'Ambrosienne, à la bibliothèque de Milan, puis plus tard à la bibliothèque du Vatican, où il a été bibliothécaire, je vous le rappelle, au cas où des gens ne pourront écouter le début de l'émission, c'est un grand bibliothécaire et un grand alpiniste. Eh bien, Pie XI réglemente son existence quotidienne au Vatican. Chaque matin, le pape se lève tôt. Il consacre une longue heure à la prière, à la méditation. À 7 heures, il célèbre sa messe. À 9 heures, il reçoit le cardinal, secrétaire d'État. Il s'entretient avec lui des affaires les plus urgentes. Puis il se réserve les plus importantes, car il agit beaucoup par lui-même. Le gouvernement de l'Église est devenu avec lui une impérieuse réalité, et à 10 heures, il reçoit en audience les cardinaux diplomates, les supérieurs des ordres religieux, les évêques qui ont à s'entretenir avec lui, qui deviennent de toutes les parties du monde. Des foules, parfois, l'attendent. Il va passer devant elles, souriant, bénissant, parlant à l'un ou à l'autre. Il consacre beaucoup de temps à parcourir les salons, les galeries du palais du Vatican qui sont où il y a des pèlerins. J'ai connu ça, on nous mettait dans des salons et le pape Pie XII dans le temps passait comme ça. Là, c'est Pie XI aujourd'hui. Et il passe si longtemps parfois qu'il se met à table toujours seul qu'à 2 heures de l'après-midi et même des fois 3 heures de l'après-midi. Dans ce temps-là, le pape mangeait tout seul. Après le repas, cet alpiniste d'autrefois, demeuré actif, aimait toujours la marche. Il fait une grande promenade dans les jardins du Vatican. Heureusement qu'il y a ses jardins pour qu'il puisse marcher les papes et prendre l'air. Et puis les audiences recommencent. 2 ou 3 fois par an, ce sont des tenues de consistoire, là, pour nommer des cardinaux. Et vient le dîner frugal le soir. Et la prière du soir est récitée avec les gens qui travaillent avec lui, les familiers. Et puis XI se retire alors dans son cabinet de travail jusqu'à minuit. Oui, il veille, là, assidu, là, un dur labeur, en compagnie de cette statuette de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus qui est placée devant lui. Sur sa belle et calme physionomie, je me souviens de ses traits calmes, aucune ligne anguleuse sur ce, un regard, une pénétration extraordinaire. Ça semblait atteindre l'âme des gens auxquels il parlait. Une parole simple, bien timbré, dénotait une tranquille mais énergique volonté. C'était un humaniste aussi. Rien des lettres, des sciences, des arts ne lui était étranger presque. Et il surprenait autant par l'étendue de ses connaissances que par la sûreté de son jugement. Et cette sorte de divination providentielle qui lui faisait en tout trouver le mot juste, là, la pensée transcendante, faisait trouver aussi la résolution virile, quoi. C'était un homme décidé, convaincu des redoutables responsabilités de sa charge. Une charge qui supraterrestre la charge du pape. Rien ne le détournait de sa route. Il était certain de conduire l'Église dans les voies de Dieu. Il croyait à cette parole de Jésus à Saint-Pierre. Le pape pouvait paraître de petite taille, mais grande était sa robustesse. Son buste était colossal. Il y avait une carrure d'athlète. Il restait toujours le vigoureux alpiniste d'autrefois, jusqu'à un âge avancé. En pleine possession de ses forces toujours. Et la bonté pour tous, grands et petits surtout. Une bonté que je pourrais qualifier de paternelle même. Le geste qui attire, celui qui pardonne, la main qui donne, qui est amicale, qui est fraternelle mais un peu noble. Mais vers toutes les infortunes, toujours. Une bonté avec une grande qualité dominante, celle de la compassion constante. Énergique, autoritaire parfois dans l'exercice de ses prérogatives souveraines, mais bon, infiniment bon. Ce mélange de l'autorité et de la bonté, tel fut Pie XI. Et s'il fallait résumer d'un mot tous les efforts religieux de Pie XI au cours de son long pontificat, je résumerai avec les mots « action catholique ». C'est bien sur l'action catholique. Vous connaissez pas ça, les jeunes, l'action catholique, mais ça vous concerne, ça nous concernait, nous les jeunes, dans le temps. Car c'est bien sûr l'action catholique que dès les débuts de son règne apostolique, jusqu'à ses jours derniers, jusqu'à la fin de sa vie, va se concentrer l'activité de ce grand pape. Élu le 6 février 1922, donc, le 23 décembre de la même année, il consacre à l'action catholique sa première encyclique. Le titre en latin, c'est « Ubi Arcano ». Tout de suite, il n'attend pas. Et devant ce spectacle désolant du monde, dont Pie XI nous fait un tableau d'une peinture puissante et énergique, il s'émeut. Il en appelle au remède suprême et unique. Comment restaurer une société qui va en perte de vitesse complète comme la nôtre? Eh bien, il dit « restaurer la royauté du Christ dans la société et dans les âmes ». On dirait aujourd'hui « restaurer l'amour du Christ, la tendresse du Christ, la vérité du Christ, les conseils du Christ, la tendresse du Christ dans la société et dans les âmes ». Restaurer cette royauté, prenons le mot de l'époque, par quels moyens? Sans doute grâce aux efforts redoublés du clergé. Des efforts redoublés du clergé, dit-il. Mais le pape, avec sa si profonde connaissance des hommes et des institutions, se rend parfaitement compte que les prêtres ne pourront venir à bout d'une pareille tâche. À des temps troublés comme ceux-là, et comme ceux d'aujourd'hui, il faut appliquer des moyens nouveaux, et l'Église ne doit pas seulement combattre avec tous ses chefs, mais aussi lancer en masse organisée dans la mêlée sociale toutes ses forces. On pourrait dire tous ces soldats, en somme tous ces fidèles. C'est dans ces derniers, à qui il confère une véritable mission d'apostolat, qu'il voit les meilleurs soutiens de la cause catholique, à condition naturellement de demeurer soumis à une hiérarchie qui les aime et qui les comprend. Et pour faire pénétrer de nouveau les principes chrétiens dans la famille, dans la vie sociale et publique, et pour défendre la dignité humaine, que veut ignorer le marxisme, pour créer entre les hommes et les peuples une véritable fraternité, bien les laïcs devront se faire des apôtres. Quand on dit des soldats, on veut dire des soldats à la façon de Gandhi, des apôtres, des soldats chrétiens, des hommes de paix, mais de courage, comme au premier temps du christianisme. Alors la sollicitude du pape pour la jeunesse, aussi bien en Italie que dans les nations catholiques, Ça va faire fâcher Mussolini, parce qu'il avait sur la jeunesse des prétentions totalitaires, comme Hitler d'ailleurs, et comme Staline. Et il voulait, en matière d'éducation, légiférer souverainement. Et fréquemment, les conflits avaient mis aux prises les autorités ecclésiastiques puis les fonctionnaires du régime. Alors, en mai 1929, Mussolini, dans un discours fougueux comme il pouvait en faire, vous vous souvenez, hein, devant la Chambre des députés, on le voit des fois à la télévision, il a une tête, il est étrange, on dirait qu'il joue la comédie, mais il déclare que le gouvernement fasciste d'Italie entendait assumer à lui seul l'éducation de toute la jeunesse italienne. Est-ce que ça ressemble pas à quelque chose qui se passe ces jours-ci ici? Et puis XI aussitôt a protesté. Et au cours d'une audience donnée aux élèves du collège Mondragone, il revendique les droits sacrés de l'Église, qu'aucune puissance temporelle ne peut méconnaître. Le pape sent la nécessité de consacrer une encyclique à l'éducation chrétienne de la jeunesse. Cette encyclique ne s'adressera pas seulement à l'Italie fasciste, mais à tous les États. Et le 31 décembre 1929, c'est l'encyclique Divini Ilius Magistri. Pie XI commence par revendiquer pour l'Église, en vertu de sa mission surnaturelle d'enseigner les vérités religieuses, le droit de former les chrétiens à la vie morale. C'est là une fonction de maternité divine qu'elle doit nécessairement exercer. L'enfant ne serait-il une simple créature de l'État, comme les fascistes le voulaient? Il appartient, l'enfant, à la famille, qui a tous les droits sur lui, droits que l'Église a toujours protégés. Et l'État n'a donc pas le pouvoir d'établir un type uniforme d'éducation pour la jeunesse et de contraindre toute la jeunesse à recevoir l'instruction dans les seules écoles publiques. Pie XI défendait ainsi la cause de l'enseignement libre, l'enseignement, celle des écoles catholiques, l'enseignement des écoles catholiques. C'est un principe qui nous intéresse au Québec, au plus haut point. Il condamnait les projets d'école unique qui hantaient encore les cerveaux de nos gouvernants. Et le pape définit ensuite le rôle de l'État dans l'éducation. Celui-ci, loin de se substituer à la famille dans l'œuvre de l'éducation de l'enfant, devait au contraire venir en aide, oui, en aide à l'œuvre morale des parents, puis à l'œuvre aussi de la conception de la vie par rapport à Dieu, de cette religion qui nous fait comprendre que nous sommes des créatures de Dieu, aimées de Dieu, capables d'aimer Dieu et son prochain, et de vivre éternellement, connaître l'au-delà, faire en sorte de ne jamais contredire la doctrine de l'Église, profond. En matière d'éducation, la part de l'État restait grande et belle, à lui d'enseigner à l'enfant les devoirs civils et nationaux, d'accord, à développer sa culture intellectuelle et physique, c'est sûr, et passant à la pédagogie, bien, Pie XI, à l'encontre de la précieuse doctrine qui veut faire croire que l'homme naît foncièrement bon, affirmait l'intervention nécessaire de l'éducateur pour le rendre meilleur, il faut rendre l'enfant meilleur. L'enfant doit donc recevoir une éducation chrétienne tout d'abord dans sa famille, c'est sûr, et c'est là le rôle des parents. Ce sont eux qui doivent lui enseigner les premières prières, lui inculquer dès le plus jeune âge une foi vive. Éducation familiale d'autant plus profitable que le père et la mère donneront l'exemple d'une vie chrétienne, mais c'est encore possible dans notre société décadente. Et l'Église enseignera à l'enfant les vérités religieuses. Elle le préparera donc à la première communion, à la confirmation. Elle l'incorporera dans ses œuvres. L'école devra accorder parfaitement son enseignement avec celui de la famille et de l'Église, croit le pape. L'enfant catholique a donc droit à une école catholique. Toutes les écoles n'ont pas besoin d'être catholiques. Qu'il y ait des écoles catholiques, c'est tout ce qu'il demande. Il est indispensable que l'État subventionne, croit-il, cette dernière, l'école catholique, et n'oblige pas les catholiques à la soutenir de leur propre denier. Et le pape Pie XI termine en indiquant le but à atteindre par l'éducation. C'est la formation du chrétien, de l'homme surnaturel. Nous verrons plus tard ce que cela veut vraiment dire. Alors, ce pape Pie XI, un pape, c'est un père universel, selon la conception de l'Église catholique. Le mot catholique veut dire universel. Mais il ne peut se défendre d'une impression bien douloureuse d'angoisse. Il songe que dans le monde, 1 milliard d'hommes à l'époque ne savent rien de la libération qu'apporte Jésus-Christ. Ils ignorent Jésus-Christ, ou bien ils refusent de le connaître. Ce sont des masses humaines innombrables du continent noir, des Indes, de la Chine, de l'Asie. C'est effroyable par son étendue. Et dans quelques jours, un moment, le 4 juin 1922, il va célébrer le tricentenaire de l'œuvre française de la propagation de la foi. Dans cette intelligence magnifique que possède le pape Pie XI, il établit tout un plan de conquête. De conquête des âmes, pour leur bonheur. Et tout ça s'échafaude en lui. Toute une suite de dispositions vont être prises. Il est devenu le pape des missions. Le 28 février 1926, à la veille de ma naissance, le Saint-Père consacre aux missions une encyclique spéciale, Rerum Ecclesiae, qui, on peut le dire, c'est vraiment la charte des missions. D'autre part, en 1917, le bolchevisme a surgi en Russie. Il est apparu tout de suite comme l'athéisme en action. Alors, ce bolchevisme poursuit avec une véritable fureur l'exécution d'un programme infernal. Il s'efforce de détruire matériellement, intellectuellement, socialement même, tout ce qui pouvait rappeler à 160 millions d'hommes à l'époque le christianisme. L'Église russe orthodoxe a été persécutée de façon épouvantable. Persécution et massacre en masse des prêtres et des fidèles. Destruction à la dynamite des églises orthodoxes et des couvents. Pillage des biens des églises. Abominable mascarade avec les objets sacrés. Ces sans-dieux, ces athées n'ont rien ménagé pour aboutir à leurs fins atroces. Ils en ont fait aussi avec l'Église catholique. Et en 1930, la persécution atteint son paroxysme aussi le 2 février 1930 donc. Pie XI, écrit-il, nous sommes profondément émus devant les honteuses scélératesses, les scélératesses impies qui se répètent et s'aggravent de jour en jour contre Dieu et les âmes. Parmi les innombrables populations de la Russie, toutes si chères à notre cœur, ne serait-ce qu'en raison de leurs souffrances. Et devant les abominations sacrilèges, dont les grandes villes russes sont le théâtre et l'hécatombe de tant de martyrs de la foi, Pie XI décide le 19 mars de célébrer à Saint-Pierre une messe expiatoire en faveur de ce très cher peuple russe. Il célèbre une messe basse, c'était par respect. Il semblait à ce moment-là que le schisme qui nous sépare des Russes orthodoxes, qui dure depuis 1238, car il y avait eu une reprise à ce moment-là, bien, que le schisme avait pris fin, et que pour Moscou comme pour Rome, il n'y avait plus qu'une seule église et un seul pasteur. Quand viendra donc ce jour? L'abominable marxisme a débordé bientôt hors de ses frontières. Il y a eu le Mexique. En 1936, on ne comptait plus au Mexique que 197 presses tolérées par la République, qui est peuplée de 15 millions d'hommes. 197 prêtres, c'est tout. La dictature des marxistes en Espagne a renouvelé dans ce pays malheureux les atrocités russes et mexicaines. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, il y a des gens qui vont croire que je suis d'extrême droite. Mais ça n'empêche pas que c'était terrible. Et tant d'inquiétudes, de chagrins, de douleurs morales allaient avoir raison de la légendaire bonne santé du pape. 3 mois à peine après cette une allocution émouvante, un matin de décembre 1936, Pie XI brusquement doit s'aliter. Depuis 6 mois, il avait 80 ans, c'est l'artériosclérose qui vient de se déclarer. À son âge, toutes les craintes sont autorisées. Pie XI, au mois de janvier, réussit à se lever. Le 6 février, il est considéré comme guéri. Mais chez cet homme de 80 ans, l'intelligence semble tout à coup avoir repris un éclat nouveau. Une puissance bientôt supérieure à celle qui avait illuminé son âge mûr. Parce que, coup sur coup, le 19 mars, imaginez, le 21 mars, 2 jours plus tard, le 28 mars, 1 semaine plus tard, Pie XI donne, croyez-le ou non, au monde stupéfait, 3 puissantes encycliques, c'est-à-dire des lettres longues, là, sur le communisme, sur l'hitlérisme, sur la persécution mexicaine. Puis encore, au mois de septembre, il publie une encyclique sur le rosaire. Quel courage, quelle force! Pie XI s'était promis, si jamais, grâce aux prières de sa petite sainte, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, il était guéri, de consacrer dès son rétablissement une encyclique au communisme. Et c'est ainsi que le 19 mars 1937 apparut l'encyclique Divini Redemptoris. Le communisme, dit-il, propose au monde ouvrier un pseudo-idéal de justice, d'égalité, de fraternité dans le travail, et fait de fausses, affreuses promesses aux foules qui subissent une misère anormale. Il dit cette doctrine enseigne qu'il n'existe qu'une seule réalité, la matière, avec ses forces aveugles. Il n'y a dès lors plus de place pour l'idée de Dieu, pour celle de la survivance de l'âme après la mort, et donc nulle espérance d'une autre vie. Alors à cette conception tout à fait rationaliste et matérialiste du monde, le pape oppose la magnifique et merveilleuse conception chrétienne qui, dit-il, ne sépare pas le souci modéré des biens temporels de la sollicitude pour les biens éternels. Quand, en 1933, Hitler a établi sa tyrannie sur le peuple allemand, il n'a trouvé en face de lui qu'une seule force vraiment agissante, parce qu'elle s'exerçait sur les armes, c'est-à-dire l'Église allemande. L'hitlérisme, bientôt, lève le masque en se montrant tel qu'il est, vraiment, en tout point semblable au marxisme, violemment antichrétien. Le 9 février 1934, le Saint-Office condamne, en effet, l'ouvrage de Rosenberg sur le racisme, doctrine qui est la glorification de la force, du culte de la race et de la toute-puissance de l'État comme le fascisme. L'hitlérisme devient un paganisme officiel, à base panthéiste, d'allure scientifique. Alors, contre les catholiques allemands, il y a des violences qui succèdent aux violences, et le cardinal Faulhaber prend courageusement la défense de l'école catholique de tous côtés attaquée. Hitler répond en fermant toutes les écoles normales catholiques. Il empêche ainsi le recrutement de maîtres catholiques. La famille, la religion, l'école, rien n'est respecté. La presse catholique est poursuivie, étouffée, supprimée. Ça ressemble beaucoup à nous ici. L'Église enfermée dans les sacristies. L'Église est bâillonnée. Et dès qu'il est rétabli, le pape rédige l'encyclique écrite en allemand « Mit brennender Sorge ». Imprimée en grand secret, elle est expédiée en Allemagne par avion, avec un plus grand secret encore, et le 23 mars, jour des rameaux, au début de la Semaine Sainte, alors que la police du gouvernement hitlérien ignore encore ce qui se passe, tous les curés d'Allemagne, en possession de cette encyclique, en donnent à la même heure lecture à leurs fidèles. Pie XI consacre les débuts de son encyclique au rappel des grandes vérités catholiques, si violemment attaquées par ce néo-paganisme hitlérien. On juge évidemment de la fureur des nazis contre le Vatican. Le fameux Goebbels, dans son journal « Landgericht », a couvert le pape d'injures. Pie XI fut, durant toute sa vie, le pape de la paix. Le 25 novembre, Pie XI subit une grave crise. Le lundi 6 février, le pape, en 1939, est malade de nouveau. Il souffre toujours atrocement, et le jeudi 9, au cours de l'après-midi, les complications se manifestent, et brusquement, dans la nuit, le mal s'aggrave. Le pape a tout de suite eu le sentiment de la gravité de son état. On célèbre la messe dans la chambre voisine. Le pape râle un peu. On lui fait dire « Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure paisiblement en votre compagnie. » Et le pape Pie XI incline légèrement la tête. À 5h31 du matin, il rend son âme à Dieu. L'Église venait de perdre l'un de ses plus grands papes, Pie XI.